Troisième partie. Chapitre 22. Sur Hyperion, à plusieurs centaines d'années-lumière, vers le centre galactique, des événements qui se déroulaient sur Tien Shan, un vieil homme oublié se réveilla du sommeil sans rêve d'une fugue cryotechnique à long terme et prit lentement conscience de son environnement, c'est-à-dire un lit en suspension totale, une petite troupe de modules d'équipement de vie qui le piquetaient comme des oiseaux de proie en train de se nourrir, et d'innombrables tubes, fils électriques et ombilicaux destinés à le nourrir, à lui désintoxiquer le sang, à stimuler ses reins, à fournir des antibiotiques pour combattre l'infection, à contrôler ses signes de vie, et en général à envahir son corps et sa dignité afin de le régénérer et de le garder en vie.
« Ah, putain de merde !»
dit le vieil homme d'une voix grinçante.
« Se réveiller est un foutu sacré bordel de bouffe-merde d'enculé de cauchemar pour les vieux mourants. Je paierai bien 1 000 000 de marks juste pour pouvoir aller pisser tout seul. »«
Bonjour, H. Silenus, »
dit l'androïde femelle qui surveillait les tracés vitaux du vieux poète affichés sur le biomoniteur flottant.
« Vous semblez de bonne humeur aujourd'hui. »
« Que toutes les paupières à la peau bleue aillent se faire foutre !»
marmonna le poète.
« Où sont mes dents ?»«
Elles n'ont pas encore repoussé, H. Silenus, » répondit l'androïde.
Elle s'appelait Aradik et avait un peu plus de 300 ans, moins du tiers de l'âge de la vieille momie humaine qui flottait dans le lit suspendu.
« Pas besoin !»
grogna le vieil homme.
« Serais pas réveillé assez longtemps. Combien de foutu temps ça fait ?»
2 ans, 3 mois, 8 jours,
répondit Aradik. Martin Silenus leva les yeux vers le ciel, au-dessus de sa tour. Le toit de toile avait été roulé, un bleu lapis profond. La lumière basse d'un début de matinée ou d'une fin de soirée. Le miroitement et le zigzag des diaphanes rayonnants qui n'illuminaient pas encore leurs fragiles ailes de papillon d'un demi-mètre.
Quelle saison ?
Réussit à demander Silenus.
La fin du printemps.
D'autres serviteurs à la peau bleue entraient et sortaient de la pièce circulaire, occupés à d'obscures besognes. Seul Aradik monitorait les dernières étapes du réveil du poète sorti de la fugue.
Ça fait combien de temps qu'ils sont partis ?
Il ne spécifia pas l'identité de ces îles. Aradik savait que le vieux poète parlait non seulement de Rol Endymion, le dernier visiteur de leur cité universitaire abandonnée, mais aussi de la petite fille, aînée, qui avait connu Silenus 3 siècles plus tôt et qu'il espérait encore revoir un jour.
« 9 années, 8 mois, 1 semaine, 1 jour, »
répondit Aradik.
« En temps standard de la Terre, bien sûr. »
Le vieux poète se contenta de grogner. Il continua à regarder le ciel d'un air dubitatif. La lumière du soleil, filtrée par la toile roulée vers l'est, se déversait sur le mur sud de la tourelle de pierre sans le frapper directement, mais son éclat remplissait tout de même ses vieux yeux de larmes.
« Je suis devenu une créature des ténèbres, »
marmonna-t-il.
« Comme Dracula, qui se lève de son foutu cercueil tous les 3 ou 4 ans pour jeter un coup d'œil sur le monde des vivants. »
« Oui, H. Silenus, »
acquiesça Aradik en modifiant plusieurs réglages sur le panneau de contrôle.
« Ferme-la, femme !»
Oui, H. Silenus.
Le vieil homme gémit.
Radik, dans combien de temps pourrais-je me remettre dans mon aérofauteuil ?
L'androïde sans cheveux fit la moue.
Encore 2 jours, H. Silenus. Peut-être 2 et demi.
Oh, bordel de merde,
murmura Martin Silenus.
Chaque fois, je mets plus de temps à me rétablir. Un de ces jours, je me réveillerai plus du tout. « La machinerie de la fugue ne me ramènera pas. »«
Oui, H. Silenus. Chaque sommeil froid est plus éprouvant pour votre organisme. L'équipement de régénération et de survie est très très ancien. C'est vrai que vous ne survivrez pas à beaucoup d'autres réveils. »«
Oh, ferme-la !»
gronda Martin Silenus.
« Tu es une vieille femelle lugubre et morbide. »«
Oui, H. Silenus. »«
Ça fait combien de temps que tu es avec moi, Radik ?»
241 ans, 11 mois, 19 jours,
dit l'androïde.
Standard.
Et tu n'as pas encore appris à faire du bon café ?
Non, H. Silenus,
Mais tu dois en préparer une pleine cafetière, exact.
Oui, H. Silenus, comme toujours.
Me fais chier avec tes oui,
dit le poète.
Vous ne pourrez pas ingérer des liquides par voie orale avant au moins 12 heures, H. Silenus,
ajouta Aradic.
Ah,
grogna le poète.
Oui, H. Silenus.
Après plusieurs minutes durant lesquelles le vieil homme parut retomber endormi, Martin Silenus dit
« Aucune nouvelle du garçon ou de l'enfant ?»«
Non, monsieur. Mais bien entendu, nous avons seulement accès au réseau com de la Pax à l'intérieur de notre système. Et la plus grande partie de leur cryptage est excellent. »«
Pas de bavardage à leur sujet ?»«
Rien dont nous soyons sûrs, H. Silenus. Les choses vont très mal pour la Pax. » Il y a la révolution dans beaucoup de systèmes, des problèmes avec leur croisade des confins contre les extros, un mouvement constant de vaisseaux de guerre et de transporteurs de troupes aux frontières de la Pax. Et ils parlent d'une manière très codée et circonspecte d'une contagion virale.
La contagion,
répéta Martin Silenus avec un grand sourire édenté.
L'enfant, je suppose.
C'est tout à fait possible, H. Silenus. Bien que ça puisse être une vraie épidémie virale sur ces mondes où...
Non,
dit le poète en secouant la tête presque violemment.
C'est inné, et son enseignement, qui se propage comme la grippe asiatique. Tu ne te rappelles pas de la grippe asiatique, Radic?
Non, monsieur,
dit l'androïde en finissant de vérifier les affichages et en réglant le module sur le mode automatique.
C'était avant mon époque. C'était avant celle de tout le monde. « Sauf vous, monsieur. »
Normalement, le poète aurait vomi un torrent d'obscénité, mais il se contenta de hocher la tête.
« Je sais. Je suis un monstre de la nature. Donnez vos deux pièces et entrez dans la baraque. Voyez l'homme le plus vieux de la galaxie. Voyez la momie qui peut marcher et parler. Une espèce de... Voyez cette chose dégoûtante qui refuse de mourir. Bizarre, je le suis, hein, Aradic?
Oui, H. Silenus.
Le poète grogna.
Eh bien, ne te monte pas la tête, la bleue. Je ne vais pas crever avant d'avoir eu des nouvelles de Roll et d'Ainé. Il faut que je finisse les Cantos. Et je ne saurai pas la fin avant qu'il la crée pour moi. Comment savoir ce que je pense avant de voir ce qu'ils font?
Précisément, H. Silenus.
Ne cherche pas à me complaire, femme bleue.
Non, H. Silenus.
Le garçon, Roll, m'a demandé ce qu'il devait faire il y a presque 10 ans. Je lui ai dit... Sauver l'enfant aîné, renverser la Pax, détruire le pouvoir de l'Église, et rapporter la terre de ce foutu endroit où elle est, quel qu'il soit. Il a dit qu'il la ferait, mais il s'était bourré la gueule avec moi ce jour-là.
Oui, H. Silenus.
Eh bien,
demanda le poète.
Eh bien quoi, monsieur?
Eh bien, y a-t-il aucun signe qu'il ait réalisé une des choses qu'il a promises, Radic?
Nous savons, d'après les transmissions de la Pax, il y a 9 ans et 8 mois, que lui et le vaisseau du consul ont fui Hyperion,
dit l'androïde.
Nous espérons que l'enfant aîné est toujours sain et sauf.
Oui, oui,
murmura Silenus en agitant faiblement la main.
Mais la Pax est-elle renversée?
Nous ne nous en sommes pas aperçus, H. Silenus. Il y a bien les petites révoltes que j'ai mentionnées plus tôt, et puis le tourisme interstellaire qui avait repris sur Hyperion est en train de baisser un peu, mais...
Cette putain d'église accomplit toujours son œuvre de zombie ?
Demanda le poète dont la voix ténue était devenue plus forte.
L'église reste dominante. Chaque année, un nombre croissant d'habitants de la lande et de la montagne acceptent le cruciforme.
Qu'ils aillent se faire enculer ! Mais je ne pense pas que la Terre soit retournée à sa place.
Nous n'avons pas entendu dire que cet événement improbable soit arrivé,
répondit Aradic.
Bien sûr, comme je l'ai mentionné, en ce moment notre espionnage électronique n'a accès qu'aux transmissions intérieures au système. Et depuis que le vaisseau du consul est parti avec Achandimion et Achéné, il y a presque 10 ans, nos capacités de décryptage n'ont pas...
D'accord, d'accord,
coupa le vieil homme, l'air soudain terriblement fatigué.
Et moi dans mon aérofauteuil.
Pas avant 2 jours, au moins, j'en ai peur,
répéta l'androïde d'une voix gentille.
Va cracher dans le bénitier,
dit le vieil homme flottant entre les tubes et les fils d'ascenseur.
Peux-tu m'approcher d'une fenêtre, Radic? Je t'en prie. Je veux regarder les chalmes printaniers et les ruines de cette vieille cité.
Oui, Silenus,
répondit l'androïde, sincèrement heureuse de pouvoir faire autre chose pour le vieux poète que de maintenir son corps en état de fonctionner. Martin Silenus regarda par la fenêtre pendant une bonne heure en luttant contre les marais de la douleur du réveil et la terrible envie léthargique de retourner à l'état de fugue. C'était bien la lumière matinale. Ses implants audio lui transmettaient des chants d'oiseaux. Le vieux poète pensa à sa nièce adoptive, l'enfant qui avait décidé de s'appeler Aîné. Il pensa à sa chère amie, Brand Lamia, la mère d'Aîné. Ils avaient été ennemis pendant si longtemps, s'étaient haïs durant ce dernier grand pèlerinage Grichtek, il y avait si longtemps. Il pensa aux histoires qu'ils s'étaient racontées et aux choses qu'ils avaient vues. Le Gritch dans la vallée des tombeaux du temps, ses yeux rouges en feu. L'érudit. Comment s'appelait-il déjà? Sol. Sol et ce petit bébé emmailloté qui retournait vers sa naissance, vers le néant. Et le militaire? Kassad. Oui, c'était comme ça qu'il s'appelait. Le colonel Kassad. Les militaires, le vieux poète s'en était toujours foutu. Tous des idiots. Mais Kassad avait raconté une histoire intéressante. Vécu une vie intéressante. L'autre prêtre, Lénard Hoyt, c'était un pharisien et un connard, mais le premier, celui avec les yeux tristes et le journal relié en cuir, Paul Duré. Voilà un homme sur lequel ça aurait valu la peine d'écrire. Martin Silenus glissa doucement dans le sommeil. Le soleil matinal le baignait, illuminant ses innombrables rides et sa chair parcheminée, translucide, ses veines bleues qui battaient faiblement dans la somptueuse lumière. Il ne rêva pas, mais une partie de son esprit de poète était déjà en train d'esquisser les prochaines strophes de ses cantos, toujours inachevées. Le sergent Grégorius n'avait pas exagéré. Le père capitaine de Soya avait été horriblement blessé et brûlé durant la dernière bataille de son vaisseau, le Raphaël, et il était mourant. Le sergent nous conduisit tous trois dans le temple. Le bâtiment était aussi étrange que cette rencontre. À l'extérieur se dressait une grande plaque commémorative de pierre nue, un monolithe lisse. Aîné mentionna brièvement qu'on l'avait rapportée de l'ancienne terre, où elle se dressait devant le premier temple de l'empereur de Jade, et que l'on n'avait jamais rien inscrit dessus durant les milliers d'années où elle demeura postée sur le chemin des pèlerins. Alors que dans la cour intérieure, scellée et pressurisée, une balustrade de pierre courait autour d'un rocher qui était, vraiment, le sommet du Taishan, le grand pic sacré de l'Empire du Milieu. Il y avait de petites salles à l'arrière de l'immense temple sonore, où les pèlerins pouvaient dormir et manger, et ce fut dans l'une d'elles que nous trouvâmes le père capitaine de Soya et les deux autres survivants, Karel Chan, officier des systèmes d'armement, terriblement brûlé et inconscient, et Hogan Liebler, que le sergent Grégorius nous présenta comme l'ex-second du Raphaël. Liebler était le moins atteint des quatre, il avait le bras gauche cassé, en écharpe, mais ni brûlure ni ecchymose d'impact. Pourtant, on sentait chez cet homme un silence, un repli sur lui-même, donnant à penser qu'il était en état de choc ou qu'il ruminait quelque chose. C'est à Federico de Soya qu'Aîné accorda toute son attention. Le prêtre capitaine était étendu sur l'un des lits de camp inconfortable des pèlerins. Grégorius l'avait dénudé jusqu'à la taille, ou bien le blessé avait perdu la partie supérieure de son uniforme lors de l'explosion et de la rentrée dans l'atmosphère. Son pantalon était en loques, il avait les pieds nus. La seule partie de son corps qui ne fut pas terriblement brûlée
était le cruciforme parasite d'un rose sain, écœurant, qui s'étalait sur sa poitrine. Ses cheveux étaient réduits en cendres, son visage avait été éclaboussé de métal fondu et balafré par les radiations, mais je vis quel homme remarquable c'était, surtout à cause de ses yeux noirs, lucides et préoccupés, en rien ternis par la douleur qui devait le submerger en ce moment. On avait appliqué de la pommade, un cicatrisant dermique temporaire, et un désinfectant sur toutes les parties visibles du corps de l'officier mourant, et installé la perfusion IV du Medipack standard de la nacelle de sauvetage, mais cela aurait peu d'effet sur l'inéluctable issue. J'avais déjà vu des brûlures comme celle-ci. Pas toutes dues à des batailles spatiales. Trois de mes amis, lors du combat mené sur le plateau de glace, étaient morts en quelques heures avant que nous puissions les évacuer. Leurs cris épouvantables nous avaient été insupportables. Le père capitaine de Soya ne criait pas. Je voyais qu'il se retenait pour ne pas le faire, mais il restait silencieux, les yeux rendus fixes par cette terrible concentration, jusqu'à ce qu'Aîné s'agenouille à côté de lui. Tout d'abord, il ne la reconnut pas. « Bets, murmura-t-il. « Viro Argile ? Non. Vous êtes morte à votre poste. Les autres aussi. Paul Déniche. Elijah en essayant de dégager le canot arrière. Les jeunes troupiers quand la coque a cédé à tribord. Mais j'ai l'impression de vous connaître. » Aîné voulut lui prendre la main, vit que trois de ses doigts manquaient et posa la sienne à côté sur la couverture tachée. « Père capitaine, » dit-elle très doucement. « Aîné, » fit de Soya. Ses yeux noirs la regardaient vraiment pour la première fois. « Vous êtes l'enfant. Tant de moi à vous poursuivre. Je vous ai regardé quand vous êtes sorti du sphinx. Enfant incroyable. Je suis tellement content que vous ayez survécu. » Son regard se posa sur moi. Vous êtes Roland Dimion. J'ai lu votre dossier de garde nationale. Failli vous rattraper sur Marine Finitus.
Une vague de douleur l'engloutit et le prêtre capitaine ferma les yeux et mordit sa lèvre inférieure brûlée et ensanglantée. Au bout d'un moment, il rouvrit les yeux et me dit
« J'ai quelque chose à vous. Un équipement personnel qui était à bord du Raphaël. Le Saint-Office me l'a donné après l'avoir étudié. Le sergent Grégorius vous le rendra quand je serai mort. »
Je hochai la tête sans comprendre de quoi il parlait.
« Oui, »
murmura le prêtre capitaine.
« Les analgésiques. J'ai dit non au sergent Grégorius. N'ai pas envie de partir en dormant. De m'en aller en douce. »
La douleur revint. Je vis que la plus grande partie de la peau de son cou et de sa poitrine était craquelée, à vif, et ressemblait à des écailles brûlées. Du pu et de la lymphe coulaient sur les couvertures qui lui servaient de matelas. Il ferma les yeux jusqu'à ce que la torture diminue. Cela prit longtemps cette fois. Je m'étais tordu juste à cause d'un calcul rénal et j'essayais d'imaginer les tourments de cet homme. Je n'y arrivais pas.
Père capitaine, dit Aîné, vous pouvez vivre.
De Soya secoua vigoureusement la tête, en dépit de la douleur que cela devait lui causer. Je remarquai que son oreille gauche n'était plus que du charbon. Une partie s'en détacha et tomba sur l'oreiller pendant que je la regardais.
Non !
Cria-t-il.
Je dis à Grégorius, pas de résurrection partielle, un idiot, un eunuque idiot.
Une toux qui aurait pu être un rire passa entre ses dents roussies.
Merci, je l'ai été en tant que prêtre. Puis, fatigué de...
Les moignons écrasés des doigts de sa main droite frappèrent la double croix rose sur sa poitrine qui pelait et suintait.
que cette chose meure avec moi. »
Aîné hocha la tête.
« Je ne parle pas de résurrection, père capitaine. Je veux dire vivre, guérir. »
De Soya essaya de cligner des yeux, mais ses paupières brûlées étaient déchiquetées.
« Pas prisonnier de la Pax !»
réussit-il à dire, ne trouvant assez d'air pour parler qu'à chaque expiration haletante.
« Il m'exécuterait. Je l'ai mérité. Tuer beaucoup d'hommes et de femmes innocents pour défendre des amis. »
Aîné se pencha plus près afin qu'il puisse voir ses yeux.
« Père capitaine, la Pax nous poursuit toujours. Mais nous avons un vaisseau, avec un autochirurgien. »
Le sergent Grégorius, appuyé jusque-là d'un air las contre le mur, s'avança. L'homme appelé Karel Chan restait inconscient. Ogli Bleur, apparemment perdu dans sa propre détresse, ne réagit pas. Aîné dut se répéter avant que De Soya comprenne.
Un vaisseau, l'ancien de l'hégémonie, dans lequel vous avez fui. Pas armé, hein? Non, il ne l'a jamais été.
De Soya secoua de nouveau la tête.
50 vaisseaux de classe archange nous sont tombés dessus. Il doit y en avoir quelques-uns qui restent. Aucune chance d'arriver à un point de translation avant que...
Il referma ses paupières déchirées pendant que la douleur le submergeait. Cette fois, elle faillit l'emporter. Il parut revenir de très loin.
« Tout va bien, » chuchota Aîné. « Je m'en occuperai. Vous serez dans l'autochirurgien. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. »
Le père capitaine de Soya semblait trop fatigué pour parler, mais il bougea la tête pour écouter.
« Il vous faudra renoncer au cruciforme. » dit Aîné. Vous devrez abandonner ce genre d'immortalité. »
Les lèvres noircies du père capitaine se retroussèrent.
Avec plaisir. Mais désolé, on ne peut pas, une fois qu'on l'a accepté, renoncer au cruciforme.
Si,
chuchota Aîné.
On le peut. Si c'est ce que vous choisissez, je peux le faire partir. Notre auto-chirurgien est vieux. Il ne serait pas capable de vous guérir avec le parasite présent dans votre corps. Nous n'avons pas de crèche de résurrection à bord du vaisseau.
Alors, la main à trois doigts d'escamée agrippa la manche de la veste thermique d'Aîné.
Peu importe. Peu importe si je meurs. Enlevez-le-moi. Enlevez-le. Je mourrai. En vrai. Catholique, si vous pouvez m'aider à l'enlever !»
Il cria presque ce dernier mot. Aîné se tourna vers le sergent.
« Avez-vous un verre ?»«
Il y a un gobelet dans le Medipack, »
gronda le géant en le cherchant.
« Mais nous n'avons pas d'eau. »«
J'en ai apporté, »
dit mon ami qui détacha la gourde isolante de sa ceinture. Je m'attendais à du vin, mais nous l'avions seulement rempli d'eau en quittant le temple suspendu dans les airs, quelques heures interminables auparavant. Aîné se passa de compresses d'alcool ou de lancettes stériles. Elle me fit signe d'approcher, ôta le couteau de chasse que je portais à la ceinture et passa la lame sur l'extrémité de ses doigts d'un mouvement rapide qui me fit sursauter. Son sang coula, rouge. Aîné trempa ses doigts dans le gobelet en plastique pendant une seconde, mais assez longtemps pour envoyer des filets cramoisis tournoyer dans l'eau.
« Buvez ça !»
dit-elle au mourant en l'aidant à soulever la tête. Le prêtre capitaine but, toussa, but de nouveau. Ses yeux se fermèrent lorsqu'elle le recoucha sur l'oreiller taché.
« Le cruciforme aura disparu dans 24 heures, »
chuchota mon ami. De nouveau, le père capitaine de Soya émit cette espèce de gloussement grossier.
« Je serai mort dans une heure. »« Vous serez dans l'autochirurgien dans un quart d'heure, »
dit Aîné en touchant sa main non mutilée.
« Dormez maintenant, mais ne mourrez pas, Federico de Soya. Ne me faites pas le coup de mourir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et il faut que vous me... que vous nous rendiez un grand service.
Le sergent Grégorius s'avança.
Achaîné.
Il se tut, traîna les pieds et essaya de nouveau.
Achaîné. Puis-je avoir de cette... eau ?
Aîné le regarda.
Oui, sergent. Mais une fois que vous aurez bu, vous ne pourrez plus jamais porter un cruciforme. Jamais. Il n'y aura plus de résurrection. Et il y a d'autres effets secondaires.
Grégorius écarta toute discussion d'un geste.
J'ai suivi mon capitaine pendant 10 ans. Je le suivrai maintenant.
Le géant but avidement l'eau rosée. De Soya avait fermé les yeux, et je supposais qu'il était endormi ou inconscient à cause de la douleur, mais il les ouvrit et dit à Grégorius
« Sergent, voulez-vous, je vous prie, donner à Chandimion le paquet que nous avons traîné depuis la nacelle de sauvetage ?»«
Oui, capitaine, »
dit le géant en fouillant dans le tas de débris entassés dans un coin de la pièce. Il me tendit un tube scellé qui faisait un peu plus d'un mètre. Je regardai le prêtre capitaine. De Soya semblait flotter entre le délire et l'état de choc.
Je l'ouvrirai quand il ira mieux, dis-je au sergent.
Grégorius hocha la tête, porta le verre à Karel Chan et versa un peu d'eau dans la bouche béante de l'officier inconscient.
Karel peut mourir avant que le vaisseau arrive,
dit le sergent. Il leva les yeux.
Le vaisseau a peut-être 2 autochirurgiens.
Non. Mais celui que nous avons a 3 compartiments. Vous pourrez aussi soigner vos blessures.
Grégorius haussa les épaules. Il alla offrir le gobelet à Liebler. L'homme maigre au bras cassé le regarda.
Peut-être plus tard, dit Aîné.
Grégorius hocha la tête et lui rendit le verre.
Le second était prisonnier à bord de notre vaisseau. C'est un espion, un ennemi du capitaine. Le père capitaine a risqué ce qui lui restait de vie pour le sortir de l'épave. Il a été brûlé en le récupérant. Je ne pense pas que Haug comprenne vraiment ce qui est arrivé.
Liebler le regarda.
Je sais ce qui est arrivé, dit-il à voix basse. Simplement, je ne comprends pas.
Aîné se releva.
Roll, j'espère que tu n'as pas perdu le télécommunicateur du vaisseau.
Je fouillai dans mes poches durant quelques secondes avant de retrouver le journal Disclé Unitécom. Il faut que je sorte pour envoyer visuellement le faisceau. Je vais utiliser la fiche de la combinaison Po. Quelles instructions faut-il donner au vaisseau ?
Dis-lui de se dépêcher,
répondit Aîné. C'était délicat de transporter De Soya à demi-conscient et Karel Chan inconscient dans le vaisseau. Il n'avait pas de combinaison spatiale et dehors, c'était presque le vide. Le sergent Grégorius nous dit qu'il s'était servi d'un ballon de transfert gonflable pour les faire passer de l'épave de la nacelle au temple de l'empereur de Jade, mais l'équipement avait été endommagé. J'eus environ 1 quart d'heure pour réfléchir au problème avant de voir le vaisseau descendre sur sa traînée de fusion bleue. Aussi, quand il arriva, je lui ordonnai d'atterrir devant le sas du temple, de morpher sa rampe escalator jusqu'à la porte de celui-ci et de déployer son champ de confinement autour de la porte et de l'escalier. Ensuite, il nous suffit de sortir les civières flottantes du compartiment MED et d'y transporter les hommes sans trop les secouer. Chan demeura inconscient, mais le transfert arracha une partie de la peau du père capitaine. Il bougea et ouvrit les yeux, mais ne cria pas. Après des mois passés sur Tien Shan, l'intérieur du vaisseau du consul me paraissait toujours aussi familier, mais comme un rêve récurrent que l'on fait sur une maison où l'on a longtemps vécu. Lorsque De Soya et son officier furent installés dans l'autochirurgien, cela me fit tout drôle de me retrouver comme avant, en compagnie d'Aîné et d'Abétique dans la fosse au lot, avec sa moquette et son Steinway, mais il y avait aussi le géant brûlé qui tenait toujours son fusil d'assaut, et l'ex-second qui broyait du noir en silence sur les marches de l'escalier.
Diagnostic terminé, dit le vaisseau. La présence des nodules du parasite en forme de croix rend le traitement impossible pour le moment.
Dois-je terminer le traitement ou mettre la fugue cryotechnique en route ?
La fugue, choisit Aîné. L'autochirurgien devrait pouvoir s'occuper d'eux dans 24 heures.
Je t'en prie, garde-les vivants et en stase jusque-là.
Affirmatif, fit le vaisseau. H. Aîné, H. Endymion ?
Oui, dis-je.
Savez-vous que des senseurs à longue portée me suivent depuis que j'ai quitté la troisième lune ? Il y a au moins 37 vaisseaux de guerre de la Pax qui se dirigent vers nous pendant que nous parlons. L'un est déjà en orbite de stationnement autour de cette planète, et un autre vient d'effectuer une tactique très inhabituelle, un saut en propulsion Hawking dans le puits gravitationnel du système.
« Ok, » dit Aîné, « ne te fais pas de soucis pour ça. »
« Je crois qu'ils ont l'intention de nous intercepter et de nous détruire, » insista le vaisseau. « Et ils peuvent le faire avant que nous ayons quitté l'atmosphère. »«
Nous le savons, » soupira Aîné. « Je répète, ne te fais pas de soucis pour ça. »
« Affirmatif, » dit le vaisseau de son ton le plus professionnel que je lui ai jamais entendu. « Destination ?»«
La fissure des Monsai, à 6 kilomètres à l'est de Swang Kung Su, à l'est du temple suspendu dans les airs. Fais vite !»
Elle jeta un coup d'œil à sa montre-bracelet.
« Mais reste plongé dans les couches de nuages, vaisseau. »«
Les nuages de phosgène ou les nuages de particules d'eau ?»«
Le plus bas possible, »
dit mon ami.
À moins que les nuages de phosgène ne te créent un problème.
Bien sûr que non. Voulez-vous que je calcule une route dans les mers d'acide ? Cela n'empêcherait pas le radar de profondeur de la Pax de nous repérer, mais cela ne prendrait qu'un peu plus de temps et non, l'interrompit Aîné.
Juste les nuages.
Nous regardâmes sur l'écran sphérique de la fosse holo le vaisseau se jeter du haut de la falaise du suicide et plonger pendant 10 kilomètres dans les nuages gris, puis les nuages verts. Nous atteindrions la crevasse dans quelques minutes. Nous étions assis sur les marches moquetées de la fosse holo. Je m'aperçus que j'avais toujours le tube scellé que De Soya m'avait donné. Je le tournai entre mes mains.
« Allez-y. Ouvrez-le, »
dit le sergent Grégorius. Le géant ôtait lentement la coque extérieure de son armure de combat balafrée. Je craignais de voir son torse et son bras gauche. Je n'avais pas la moindre idée de la nature de cet objet. Comment cet homme savait-il qu'il me verrait aujourd'hui ? Je n'avais jamais rien possédé. Que pouvait-il avoir à me rendre ? Je brisai le seau et regardai dans le tube. Une espèce de tissu roulé serré. Comprenant lentement, je le sortis et le déroulai sur le plancher. Aîné rit avec ravissement.
« Mon Dieu ! » dit-elle. Dans tous mes rêves sur aujourd'hui, je n'ai jamais prévu cela. C'est merveilleux.
C'était le tapis Hawking. Le tapis volant qui nous avait emportés, Aîné et moi, de la vallée des tombeaux du temps presque 10 ans auparavant. Je l'avais perdu. Il me fallut une seconde ou deux pour me souvenir comment. Je l'avais perdu sur Mare Infinitus, quand le lieutenant de la Pax avec lequel je me battais, sortant un couteau, m'avait blessé et poussé dans la mer.
Qu'était-il arrivé ensuite ?
Ces hommes postés sur la plateforme flottante l'avaient tué par erreur d'un nuage de fléchettes, le mort était tombé dans la mer violette, et le tapis Hawking avait continué à voler.
Non.
Je me souvins que quelqu'un sur la plateforme l'avait intercepté. Comment est-il arrivé entre les mains du père capitaine ? Demandai-je, sachant la réponse dès que j'eus formulé la question. De Soya était à notre poursuite à l'époque.
Le père capitaine y a récupéré des échantillons de votre sang et de votre ADN. C'est comme cela que nous avons obtenu votre dossier des services de la Pax sur Hyperion. Si nous avions eu des combinaisons pressurisées, j'aurais utilisé ce sacré truc pour quitter les montagnes dépourvues d'air.
Vous voulez dire qu'il fonctionne ?
Je tapais sur les fils de vol. Le tapis Hawking, plus déchiré que dans mes souvenirs, décolla de 10 centimètres.
Merde alors !
« Nous arrivons à la crevasse dont vous m'avez donné les coordonnées, » dit la voix du vaisseau. L'écran de la fosse holo s'éclaira et montra la crête de Jokung défilant en dessous de nous. Nous ralentîmes et restâmes suspendus à 100 mètres. Nous étions revenus à la même vallée boisée où, plus de 3 mois auparavant, le vaisseau m'avait débarqué. Seulement aujourd'hui, la crevasse était pleine de monde.
je vis Théo, Lomo et beaucoup d'autres venus du temple suspendu dans les airs. Le vaisseau descendit en flottant et plana, attendant les ordres.
« Morphe l'escalier, » dit Aîné. « Laisse-les monter à bord. »
« Puis-je vous rappeler que j'ai des couches de fugue et des équipements de survie pour un maximum de 6 personnes en cas de saut interstellaire étendu ?»«
Il y a au moins 50 personnes dans le « morphe l'escalier et laisse-les monter à bord », répéta Aîné. « Immédiatement. »
Le vaisseau fit ce qu'on lui disait sans ajouter un seul mot. Théo fit prendre aux réfugiés la rampe et l'escalier circulaire jusqu'à l'endroit où nous les attendions. La plupart de ceux qui étaient restés au temple suspendu dans les airs étaient là. Beaucoup de moines, le Tromo Trochi de Domu, l'ex-soldat Gyalo Tondup, Lomo Dondrup, nous fûmes ravis de constater que son paraglisseur l'avait ramené sain et sauf, et à voir son sourire et la manière dont il nous serra dans ses bras, cette joie était réciproque. Le supérieur Kempo Nawangtashi, Chimdin, Jigme Taring, Kuku Ekei, Georges et Jigme, Lapsang, le frère du Dalai Lama, les briquetiers Vicky et Kim, le contremaître Tsipan Chakabba, Rimsi qui poupe, je ne l'avais jamais vu si peu amer, les gréeurs en altitude Haruyuki et Kenshiro, les experts en bambou Wojtek et Janus, et même le maître de Jokung, Charles Chikyap Kempo. Mais le Dalai Lama n'était pas là, la Dorje Famo non plus.
Rachel est retournée les chercher, dit Théo lorsque tout le monde fut monté à bord. Le Dalai Lama a insisté pour être le dernier à partir, et l'allée est restée pour lui tenir compagnie jusqu'au moment du départ. Mais il devrait être là maintenant. J'étais justement prête à remonter la corniche pour voir si...
Aîné secoua la tête.
Nous irons tous.
Impossible de faire asseoir ou d'installer tout le monde. Les gens grouillaient dans les escaliers ou au niveau de la bibliothèque, ou bien étaient montés jusqu'à la chambre à coucher tout en haut du vaisseau et regardaient dehors par les cloisons de visualisation, tandis que d'autres s'étaient réfugiés au niveau des caissons de fugue et, en bas, dans la salle des machines.
« Partons, vaisseau !» dit Aîné. « Le temple suspendu dans les airs. Approche directe !»
Pour le vaisseau, une approche directe, c'était un jet de flamme de poussée, une montée en chandelle de 15 clics dans l'atmosphère, puis une chute verticale et une intervention des répulseurs et du moteur principal à la dernière seconde. Le processus tout entier ne prit qu'environ 30 secondes, mais bien que le champ de confinement interne nous empêcha d'être réduit en bouillie, la vue par les cloisons transparentes du sommet dut désorienter ceux qui, là-haut, regardaient en direct. Aîné, Abétic, Théo et moi étions dans la fosse au lot, et même cette vision retransmise me donna envie de m'accrocher aux cloisons ou d'enfoncer mes ongles dans la moquette. Nous descendîmes encore un peu plus et restâmes suspendus à 50 mètres au-dessus des bâtiments du temple.
« Oh, bon sang !» jura Théo.
Un homme était en train de tomber dans l'abîme. Nous n'avions aucun moyen de le sauver. En une seconde, il fut avalé par les nuages.
« Qui était-ce ? »
demanda Théo.
« Vaisseau, » dit Aîné. « Repasse l'image agrandie. »
Carl Linga William Eiheji, le garde du corps du Dalai Lama. Quelques secondes plus tard, plusieurs silhouettes émergèrent du pavillon de la méditation juste, sur la plus élevée des plateformes, celle que j'avais aidé à construire selon les plans d'Aîné, moins d'un mois auparavant.
« Merde, » dis-je tout haut.
Némès tenait le Dalai Lama d'une main, suspendu au-dessus du vide. Derrière elle venaient ses clones mâles et femelles. Puis Rachel et la Dorje Famo sortirent de l'ombre, sur la plateforme.
Aîné me saisit par le bras. « Roll, tu veux bien sortir avec moi ?»
Elle avait activé le balcon, par-delà le Steinway, mais je savais que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire.
« Bien sûr, » répondis-je, pensant, « est-ce ainsi qu'elle va mourir ? Est-ce cette mort qu'elle a prévue avant sa naissance ? Est-ce ma mort ? Bien sûr que je viens. »
Abétic et Théo se préparèrent à sortir sur le balcon avec nous.
« Non, » dit Aîné, « je vous en prie. »
Elle prit la main de l'androïde.
« Mon ami, vous pouvez tout voir de l'intérieur.
Je préfère être avec vous, Aîné. »
Mais cela ne concerne que Roll et moi. »
Abétic baissa la tête une seconde, puis retourna aux imageurs de la fosse au lot. Aucune des douzaines de personnes qui se trouvaient au niveau de la bibliothèque et sur les marches de l'escalier ne dit mot. Le vaisseau était plongé dans un silence total. je sortis sur le balcon avec mon ami. Némès tenait toujours le petit garçon suspendu au-dessus de l'abîme. Nous étions à 20 mètres au-dessus d'elle et de ses clones. Je me demandais stupidement jusqu'à quelle hauteur ces machines pouvaient sauter.
« Hé !»
cria Aîné. Némès leva les yeux. Ce fut une occasion de me rappeler que son regard vous donnait l'impression d'être fixé par des orbites vides. Rien d'humain ne vivait derrière ses yeux.
« Posez-le !»
Némès sourit, lâcha le Dalai Lama et le rattrapa de la main gauche à la dernière seconde.
« Faites attention à ce que vous demandez, enfant !» dit la femme pâle.
« Laissez-le partir ainsi que les deux autres, et je descendrai !»
Némès haussa les épaules.
« Vous ne partirez pas d'ici n'importe comment, » répondit-elle, sans élever la voix mais parfaitement audible.
« Laissez-les partir et je descendrai !»
répéta Aîné. Némès haussa les épaules, mais lança le Dalai Lama sur la plateforme comme on jette une boulette de papier dans une corbeille. Rachel courut vers le petit garçon, vit qu'il était blessé, qu'il saignait, mais vivait encore, le prit dans ses bras et se retourna furieuse vers Némès et ses clones.
« Non !»
hurla Aîné. Je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton. Il nous figea sur place, Rachel et moi.
« Rachel !»
fit Aîné d'une voix normale. « Je t'en prie, fais monter sa sainteté et la Dorje Famo à bord. » Cet ordre était poli mais impératif, et je n'aurais pas pu y résister. Rachel non plus. Aîné lança un commandement, le vaisseau s'abaissa, morfa et déploya un escalier depuis le balcon. Aîné commença à descendre. Je me hâtai de la suivre. Nous mîmes le pied sur la plateforme de cèdre bonsaï. J'avais participé à la pose de toutes les planches. Rachel conduisit l'enfant et la femme âgée vers les marches pour qu'ils les gravissent. Aîné toucha la tête de la jeune femme lorsqu'elle nous croisa. L'escalier remonta et se refondit dans le balcon. Théo et Abetti qui rejoignirent Rachel et la Dorje Famo. Quelqu'un avait emmené dans le vaisseau l'enfant ensanglanté. Nous nous arrêtâmes à 2 mètres de Radamante Némès. Ses frères et sœurs vinrent se poster à ses côtés.
« Tout le monde n'est pas là, » dit Némès. « Où est votre... Ah, là !»
Le Gritch se coula hors des ombres du pavillon. Je dis « se coula » car bien qu'il s'avançât, je ne le vis pas marcher. Je serrai et desserrai les poings. Rien ne collait dans ce règlement de compte. J'avais ôté ma veste thermique dans le vaisseau, mais portais encore la stupide combinaison peau et le harnais d'escalade, bien que la plupart de l'équipement fût resté à bord. Le baudrier et les multiples couches allaient me ralentir. Me ralentir pour faire quoi, pensais-je. J'avais vu Némès se battre. Ou plutôt, je ne l'avais pas vu. Quand le Gritch et elle avaient lutté sur le bosquet de Dieu, il y avait eu une tache floue, puis des explosions, puis rien. Elle pouvait décapiter Aîné et m'arracher les boyaux avant que j'aie pu serrer les poings. Les poings. Le vaisseau n'était pas armé. Mais quand je l'avais quitté, le fusil d'assaut du sergent Grégorius était à l'étage de la bibliothèque. La première chose que l'on nous enseignait dans la garde nationale, c'était de ne jamais se battre à main nue si l'on pouvait improviser une arme. Je regardais autour de moi. La plateforme était nue, je n'aurais même pas pu arracher une rampe pour en faire une massue. Cette structure était trop bien construite pour avoir quelque chose d'arrachable. Je jetai un coup d'œil à la paroi sur notre gauche. Pas de pierre détachée. Il y avait quelques pitons d'escalade scellés dans les fissures, je le savais. Nous y fixions nos cordes de sécurité pendant que nous construisions ce niveau, et nous ne les avions pas tous enlevés. Mais il m'aurait été impossible de les arracher pour m'en faire une arme, bien que Némès en ait sans doute été capable d'un seul doigt. Et que pouvait un piton ou un crampon contre ce monstre? Ici, il n'y avait pas d'armes. Je mourrais main nue. J'espérais lui asséner un coup avant qu'elle ne m'abatte, au moins un coup de poing. Aîné et Némès se regardaient. Némès ne jeta qu'un bref coup d'œil sur le Gritch, à 10 pas sur sa droite. La chose dit...
« Vous savez que je ne vais pas vous livrer à la Pax, n'est-ce pas, petite garce ?
Oui.
Aîné lui rendit son regard avec intensité. Némès sourit.
Mais vous croyez que votre porte-épine va vous sauver ?
Non.
Bon, parce que ce ne sera pas le cas.
Elle fit un signe de tête à ses clones. Je connais leurs noms maintenant, Scylla et Briarée. Et je sais ce que je vis ensuite. Je n'aurais pas dû être capable de voir cela, car les trois machines changèrent alors de phase. Tout aurait dû se réduire à un bref éclair de chrome flou, puis le chaos, puis plus rien. Mais Aîné tendit la main, me toucha la nuque, et soudain, la lumière changea, s'assombrit. L'air devint presque aussi épais que de l'eau. Je m'aperçus que mon cœur ne battait plus, que je ne clignais plus des paupières, que je ne respirais plus. Aussi alarmant que cela parut, c'était sans importance. La voix d'Aîné chuchota dans l'écouteur du capuchon rejeté en arrière de ma combinaison peau. Ou peut-être parla-t-elle directement par l'intermédiaire de sa main sur mon cou.
Nous ne pouvons pas changer de phase ou utiliser l'ultra-V pour les combattre. Ce serait un abus de l'énergie du vide qui lit. Mais je peux nous aider à voir.
Et ce que nous vîmes était assez incroyable. Sur l'ordre de Némès, Scylla et Briarée se jetèrent sur le Gritch lorsque le démon d'Hyperion leva ses quatre bras pour l'attaquer et fut aussitôt intercepté par les clones. Même avec notre vision modifiée, le vaisseau figé en plein vol, nos amis transformés en statues aux yeux fixes sur le balcon, un oiseau piégé dans l'air comme un insecte serti dans l'ambre. Les mouvements soudains du Gritch et des deux clones furent presque trop rapides pour que nous puissions les suivre. Il y eut un impact terrible à un mètre de Némès, transformé en effigie argentée d'elle-même et qui ne broncha pas. Briarée porta un coup qui, j'en suis sûr, aurait fendu notre vaisseau en deux. Il se répercuta sur le cou épineux du Gritch avec le bruit d'un tremblement de terre sous-marin repassé au ralenti, puis Scylla lui faucha les jambes. Le Gritch tomba, mais pas avant que deux de ses bras saisissent Scylla et que deux autres griffes coupantes comme des rasoirs s'enfoncent dans le corps de Briarée. Les clones de Némès parurent faire un bon accueil à son étreinte, se jetant eux-mêmes, en claquant des dents, toutes griffes dehors, sur le Gritch en train de tomber. Je vis que les bords de leurs mains et de leurs avant-bras étaient aiguisés comme des rasoirs, guillotines plus effilées que les lames et les épines du Gritch. Tous trois se frappaient et se mordaient en proie à une frénésie sauvage, roulant d'un bout à l'autre de la plateforme, projetant des échardes de cèdre bonsaï à 3 mètres en l'air et s'écrasant contre la paroi rocheuse. En une seconde, ils se retrouvèrent tous debout, les grandes mâchoires du Gritch serrant le cou de Briarée, tandis que Scylla s'emparait d'un de ses quatre bras, le recourbait en arrière et semblait le briser à la jointure. Tenant toujours Briarée dans ses mâchoires, ses immenses dents mordant et raclant la tête de la forme argentée, le Gritch pivota pour affronter Scylla, mais les deux clones avaient déjà empoigné les lames et les épines du crâne du Gritch et le recourbaient en arrière. Je m'attendais à entendre le cou cassé et voir la tête rouler au loin. Au lieu de cela, Némès leur ordonna « Maintenant, allez-y !» Et sans un instant d'hésitation, les deux clones reculèrent loin de la paroi rocheuse, vers le côté de la plateforme donnant sur l'abîme. Je compris ce qu'ils tentaient d'exécuter. Jeter le Gritch dans le vide, comme ils l'avaient fait du garde du corps du Dalai Lama. Peut-être le Gritch s'en aperçut-il aussi, car la grande créature étreignit les deux corps de chrome, les pointes de sa poitrine et les épines de ses poignets s'enfoncèrent profondément dans les champs de force entourant les deux clones qui se débattaient et griffaient. Le trio tournoya, tomba et rebondit comme un jouet mécanique démentiel dont les trois parties seraient bloquées en mode berserk hyper rapide jusqu'à ce que, pour finir, le Gritch et les formes visiblement empalées qui donnaient des coups de pied, de dents et de griffes heurtent la rambarde en robuste cèdre qui se déchira comme si elle était en carton mouillé et tombe en tournoyant dans l'abîme sans cesser de lutter. Aîné et moi regardâmes la grande silhouette argentée au pic étincelante et les deux plus petites battant l'air, tomber, devenir de plus en plus minuscules
et s'enfoncer dans les nuages qui les engloutirent. Je savais que ceux qui nous regardaient du vaisseau virent seulement les trois formes disparaître soudain, puis la rambarde brisée et une plateforme où ne restait plus que Némès, Aîné et moi. La chose argentée qui était Radamante Némès tourna vers nous son visage de chrome dépourvu de traits. La lumière changea. La brise souffla de nouveau. L'air redevint gazeux. Je sentis mon cœur se remettre à battre, à taper fort, et je clignai rapidement des yeux. Némès avait repris sa forme humaine.
Alors, dit-elle à Aîné, allons-nous mettre fin à cette petite farce?
Oui, répondit Aîné.
Némès sourit et repassa en ultra-V.
Rien ne se produisit.
La créature fronça les sourcils et parut se concentrer.
Toujours rien. Je ne peux pas vous empêcher de changer de phase, dit Aîné. Mais d'autres le peuvent. Et le font.
Némès parut irritée, puis éclata de rire.
Ceux qui m'ont créé arrangeront cela dans une seconde, mais je ne souhaite pas attendre aussi longtemps, et je n'ai pas besoin de changer de phase pour vous tuer, petite garce. C'est vrai.
Pendant toute cette confusion, toute cette violence, Aîné était resté campé, jambes écartées, les pieds fermement plantés, les bras ballants. Némès montra ses petites dents, mais je vis que celles-ci s'étaient allongées, étaient devenues plus pointues. Il y en avait au moins trois rangées. Elle leva les mains et ses ongles, déjà pâles et longs, grandirent d'au moins 10 centimètres, transformés en pointes étincelantes. Avec ses ongles pointus, Némès arracha la peau et la chair de son avant-bras droit, révélant une espèce d'endosquelette métallique qui avait la couleur de l'acier, mais semblait infiniment plus affilée.
Allons-y.
Némès s'avança vers Aîné. Je m'interposai entre elles. Non, dis-je en levant les poings, comme un boxeur prêt à se battre. Némès, d'un sourire grimaçant, montra toutes ses dents. Chapitre 23. Le temps et le mouvement semblent ralentir de nouveau, comme si je pouvais voir en mode changement de phase, mais cette fois, c'est simplement l'effet de l'adrénaline et d'une concentration totale. Mon esprit passe en vitesse surmultipliée. Mes sens acquièrent une acuité surnaturelle. Je vois, je sens et je calcule chaque microseconde avec une clarté troublante. Némès s'avance d'un pas, plus vers Aîné qui est à ma gauche que vers moi. Cela ressemble plus à une partie d'échecs qu'à un combat. Je gagne si je tue la garce insensible ou si je la fais tomber de la plateforme assez longtemps pour que nous puissions nous enfuir. Elle n'a pas besoin de me tuer pour gagner. Il lui suffit de me neutraliser assez longtemps pour tuer Aîné. Aîné est sa cible. Aîné a toujours été sa cible. On a créé ce monstre pour qu'elle tue Aîné. Une partie d'échec. Némès vient de sacrifier deux de ses pièces essentielles, son frère et sa sœur, afin de neutraliser notre cavalier, le Gritch. Maintenant, ces trois pièces ne sont plus sur l'échiquier. Il ne reste que Némès, la reine noire, Aîné, la reine de l'humanité, et le seul pion d'Aîné, moi. Ce pion sera peut-être obligé de se sacrifier, mais pas sans avoir éliminé la reine noire. Il y est déterminé. Némès sourit. Ses dents sont pointues et trop nombreuses. Ses bras sont toujours ballants. Ses longs ongles scintillent. Son avant-bras droit ressemble à un objet chirurgical obscène. L'intérieur n'est pas humain. Non, pas humain du tout. Le bord coupant de l'endosquelette de son bras reflète le soleil de l'après-midi. Aîné, dis-je doucement. Recule, je t'en prie. Cette plateforme, la plus haute de toutes, est reliée à l'escalier et au sentier de pierre que nous avons dû couper pour grimper jusqu'au passage suspendu. Je veux que mon ami la quitte.
Rolge,
fais-le. Maintenant, dis-je sans élever la voix, mais avec toute la force de ce ton de commandement que j'ai appris et avec lequel j'ai gagné 32 ans de ma vie. Aîné recule de 4 pas sur la corniche de pierre. Le vaisseau est toujours suspendu à 50 mètres au-dessus de nous. Sur le balcon, beaucoup de visages se penchent vers nous. J'essaie d'adjurer le sergent Grégorius d'utiliser son fusil d'assaut pour liquider cette putain de chose, mais je ne vois pas son visage noir parmi ceux qui nous regardent. Peut-être est-il trop affaibli par ses blessures. Peut-être estime-t-il que ce doit être un combat loyal. Foutre non. Je ne veux pas d'un combat loyal. Je veux tuer cette Némesse à tout prix. J'accepterai l'aide de n'importe qui. Le Gritch est-il vraiment mort? Peut-il mourir? Les contos de Martin Silenus semblent dire que le Gritch a été vaincu lors d'un combat avec le colonel Fedman Kassad dans un futur lointain. Mais comment Silenus l'a-t-il su? Et qu'est le futur pour un monstre capable de voyager dans le temps? Si le Gritch n'est pas mort, j'aimerais bien qu'il revienne maintenant. Némès s'avance d'un autre pas sur sa droite. J'en fais un de côté pour lui bloquer l'accès à Aîné. En changement de phase, cette chose a une force surhumaine et peut bouger si vite qu'elle est littéralement invisible. Elle ne peut pas passer en ultra-V maintenant. Je l'espère avec ferveur. Mais elle est tout de même plus rapide et plus forte que moi. Que n'importe quel être humain. Je suis obligé de le supposer. Elle a des crocs, des griffes et un bras coupant.
Prêt à mourir, Roland Dimion ?
Dit Némès dont les lèvres découvrent des rangées de dents. Ses atouts sont la vitesse, la force et un organisme non humain. Elle est plus robot ou androïde qu'humaine. Elle ne doit pas ressentir la douleur. Elle peut avoir d'autres armes intégrées qu'elle n'a pas encore révélées. Je ne vois pas comment la tuer ou l'immobiliser. Son squelette est fait de métal et non d'os. Les muscles visibles de son avant-bras semblent réels, mais peuvent être en fibre de plastique ou en maille d'acier rose. Les techniques normales de combat ne l'arrêteront pas. Ses faiblesses, je ne les connais pas. Peut-être l'excès de confiance en elle. Peut-être s'est-elle trop habituée à utiliser le changement de phase, à tuer ses ennemis quand ils ne peuvent pas se défendre. Mais elle s'en est prise au Gritch et l'a contrée il y a 9 ans et demi. L'a battue en fait. Seule l'intervention du père capitaine de Soya, utilisant contre elle tous les gigavolts de son vaisseau, l'a empêché de nous tuer. Némès lève les bras et s'accroupit, doigts griffus tendus. Jusqu'où la chose peut-elle sauter? Peut-elle passer par-dessus ma tête pour atteindre Aîné? Mes atouts sont 2 années de boxe pendant mon service dans la garde nationale. Je détestais cela et perdais environ 1/3 de mes matchs. Mais les hommes de mon régiment continuaient à parier sur moi. La douleur ne m'arrêtait pas. Je la sentais, mais elle ne m'arrêtait pas. Les coups au visage me faisaient voir rouge. J'oubliais tout mon entraînement quand on me frappait au visage, et une fois le brouillard rouge et la fureur dissipés, si j'étais encore debout, j'avais presque toujours gagné. Mais je sais que la fureur aveugle ne m'aidera pas aujourd'hui. Si je perds ma concentration un seul instant, cette chose me tuera. J'étais rapide quand je pratiquais la boxe, mais il y a plus de 10 ans. J'étais fort, mais je ne me suis pas entraîné pendant tout ce temps. Je pouvais encaisser de fameux coups sur le ring, ne pas céder à la douleur. Je n'ai jamais été mis KO, même quand un meilleur boxeur que moi m'envoyait à terre 12 fois avant que sonne la fin du combat. Outre la boxe, j'avais été videur dans l'un des plus gros casinos des 9 queues à Félix. Mais il fallait surtout de la psychologie. Savoir comment éviter de se battre tout en mettant l'odieux ivrogne à la porte. Je m'étais toujours arrangé pour que les rares véritables bagarres se terminent en quelques secondes. Je m'étais entraîné au combat à main nue dans la garde nationale. J'avais appris à tuer de près, mais ce genre de situation était aussi rare qu'une charge à la baïonnette. Quand je travaillais comme marinier, j'avais connu des combats plus sérieux, notamment une fois avec un homme armé d'un long couteau résolu à m'éventrer. Je m'en étais tiré, mais cet autre marinier m'avait mis KO. En tant que guide de chasse, je survécus à l'attaque d'un étranger armé d'un fusil à fléchette. Mais je le tuai accidentellement et après sa résurrection, il témoigna contre moi. D'ailleurs, c'était comme cela que tout avait commencé. De toutes mes faiblesses, la plus grave, c'était que je n'avais pas vraiment envie de faire du mal à quelqu'un. Dans tous mes combats,
sauf peut-être avec le marinier au couteau et le chasseur chrétien au fusil à fléchette, je m'étais retenu, ne voulant pas frapper aussi fort que je l'aurais pu, ne voulant pas faire trop de mal. Il faut que je change de manière de penser. Ce n'est pas une personne, c'est une machine à tuer. Et si je ne l'immobilise pas ou ne la tue pas rapidement, elle me tuera encore plus vite. Némès saute sur moi, les ongles en avant, et d'un mouvement latéral, me frappe de son bras droit comme avec une faux. Je recule d'un bond, esquive la faux, esquive presque tous les ongles, vois ma manche gauche déchirée, vois le sang embrumer l'air, puis rapidement, je m'avance et la frappe, vite, fort, trois fois, au visage. Némès recule aussi vite qu'elle s'est avancée. Il y a du sang sur les grands ongles de sa main gauche. Mon sang. Je lui ai tellement cassé le nez qu'il est maintenant aplati, en biais, sur son visage mince. J'ai brisé quelque chose, de l'os, du cartilage, des fibres métalliques, là où était son front. Elle ne semble pas remarquer ses blessures. Elle sourit toujours. Je jette un coup d'œil à mon bras gauche. Il me brûle furieusement. Du poison ? Peut-être. Ce serait logique. Mais si elle se sert d'un poison, je mourrai en quelques secondes. Il n'y a aucune raison pour qu'elle utilise des agents à effet retard. Mon bras est toujours là. Il me brûle seulement à cause des balafres. Quatre, je pense, profondes, mais il n'y a pas de muscles sectionnés. Ses blessures importent peu. Concentre-toi sur ses yeux. Devine ce qu'elle va faire. Ne jamais se battre à main nue, nous enseignait la garde nationale. Toujours trouver une arme dans un corps à corps. Si votre arme personnelle est détruite ou manque, trouvez quelque chose d'autre, improvisez. Un rocher, une grosse branche, un bout de métal, même des pierres tenues serrées ou des clés entre les doigts sont préférables aux mains nues. Les jointures se brisent plus vite que les os de la mâchoire, nous rappelait toujours l'instructeur. Si vous n'avez vraiment rien d'autre, frappez toujours du tranchant de la main. Utilisez vos doigts rigidifiés. Attaquez-vous aux yeux ou à la pomme d'Adam avec vos ongles. Ici, pas de pierre, pas de branche, pas de clé. Aucune arme. Cette chose n'a pas de pomme d'Adam. Je suppose que ses yeux sont aussi froids et durs que des billes. Némès se déporte encore vers la gauche en regardant Aîné.
J'arrive, mon cœur, siffle-t-elle à mon ami.
J'aperçois Aîné du coin de l'œil. Elle est debout sur la corniche. Elle ne bouge pas. Son visage est impassible. Cela ne ressemble pas à ma bien-aimée. Normalement, elle devrait jeter des pierres, sauter sur le dos de l'ennemi. N'importe quoi, mais pas me laisser combattre cette chose seule.
Ce moment est à toi, Roll, mon chéri.
Sa voix est aussi claire qu'un chuchotement dans mon esprit. C'est un chuchotement. Sorti des écouteurs du capuchon rabattu de ma combinaison peau. Je porte toujours ce sacré machin, ainsi que mon harnais d'escalade, inutile. Je vais sous-vocaliser une réponse, mais je me souviens que je me suis branché sur le communicateur du vaisseau lorsque je l'ai appelé du sommet du Tien Shan, et que si je l'utilise, je vais transmettre au vaisseau aussi bien qu'à Aîné. Je me déplace vers la gauche, bloquant de nouveau la voie à cette créature. J'ai moins de place pour manœuvrer. Némès attaque plus vite cette fois. Feinte à gauche et échappant à mon droit, me porte un revers dans les côtes. Je saute en arrière, mais la lame tranche la chair juste sous ma plus basse côte droite. Je baisse la tête, ses griffes scintillent, ses griffes de la main gauche visent mes yeux, je baisse de nouveau la tête, mais elle m'arrache un morceau de cuir chevelu. Un instant, l'air se remplit encore de sang atomisé. Je m'avance et lance mon propre bras droit à revers, l'abattant comme un marteau, mon poing la frappe sous la mâchoire. La chair synthétique éclate, réduite en purée. En dessous, le métal et les tubes ne cèdent pas. Némès me porte de nouveau un revers de son bras droit en forme de faux et me griffe de la main gauche. Je m'éloigne d'un bond. Elle me manque totalement. Je m'avance rapidement et lui donne un coup de pied derrière les genoux, espérant la faire tomber. Nous sommes à 8 mètres de la rambarde brisée. Si je pouvais la faire rouler jusque-là, même si nous devions tous deux passer par-dessus bord, c'est comme si j'avais donné un coup de pied dans un montant en acier.
Ma jambe est tout engourdie, mais Némès n'est pas ébranlée. Des fluides et de la chair s'écoulent de son endosquelette, pourtant elle tient bon. Elle doit peser deux fois plus que moi. Elle me rend mon coup de pied et brise une ou deux de mes côtes à gauche. Je les entends craquer. L'air est violemment expulsé de mes poumons. Je recule en vacillant, espérant presque trouver une corde derrière moi. Mais il n'y a que la paroi, un mur de roche dure et glissant. Je me tape contre un piton qui m'étourdit un instant. Maintenant, je sais ce que je vais faire. J'ai l'impression de respirer du feu, aussi j'aspire rapidement plusieurs fois de suite, confirmant ainsi que je le peux, essayant de retrouver mon souffle. J'ai de la chance. Je ne pense pas que mes côtes cassées aient pénétré dans mon poumon gauche. Némès ouvre les bras pour m'empêcher de fuir et se rapproche. Je me précipite dans son horrible étreinte, à la portée mortelle de l'avant-bras armé d'une lame, et la frappe, aussi fort que je peux, des deux côtés de la tête. Ses oreilles sont réduites en purée. Cette fois, c'est un fluide jaune qui remplit l'air, mais je sens la solidité de son crâne en permacier sous la chair tuméfiée. Mes poings rebondissent. Je recule en titubant, les mains, les bras, les poings, temporairement inutilisables. Némès bondit. Je m'appuie au rocher, lève les deux jambes au niveau de sa poitrine et la frappe de toute ma force. Elle me porte un coup avant de s'envoler en arrière, tranchant une partie de mon harnais, balafrant ma veste et ma combinaison peau et un muscle de ma poitrine. Du côté droit, elle n'a pas coupé les fils comme. Bien. D'une culbute en arrière, elle retombe sur ses pieds à 5 mètres encore du bord. Il n'y a pas moyen de la faire tomber de la plateforme. Elle ne joue pas selon mes règles. Je me précipite sur elle, poing levé. Némès lève la main gauche, recourbée et griffue, d'un seul mouvement rapide pour m'éventrer. Le coup mortel me rate de quelques millimètres et maintenant, tandis qu'elle ramène son bras droit en arrière pour me couper en deux, je pivote sur un pied et de l'autre lui donne un coup à la poitrine de toute ma force. Némès grogne et me mord la jambe, ses mâchoires claquent comme celles d'un gros chien. Ses dents arrachent le talon et la semelle de ma botte, mais pas la chair. Reprenant mon équilibre, je me lance de nouveau à l'assaut, saisis de la main gauche son poignet droit pour empêcher son bras en forme de faux d'arracher la chair de mon dos, et me rapproche pour l'empoigner par les cheveux. Elle me gifle, ses rangées de dents sont juste devant mes yeux, l'air entre nous se remplit de sa salive jaune ou de son pseudo-sang. Je lui renverse la tête en arrière tandis que nous pivotons, deux violents danseurs luttant l'un contre l'autre, mais ses cheveux courts et plats sont couverts de sang et de lubrifiant, et mes doigts glissent. Lui assenant de nouveau un coup pour la faire tomber, je mets les doigts dans ses orbites et lui repousse la tête de toute la force de mes bras et de mon torse. Sa tête se recourbe en arrière, de 30 degrés, 50, 60. Je devrais entendre craquer sa colonne vertébrale. 80 degrés, 90. Son cou forme un angle droit avec son torse, ses yeux de marbre sont froids sous mes doigts tendus, sa large bouche s'étire plus largement encore lorsque ses dents claquent près de mon avant-bras. Je la relâche. Elle s'avance comme si elle était propulsée par un ressort géant. Ses griffes s'enfoncent dans mon dos, raclent l'os de mes deux omoplates, la droite puis la gauche. Je m'accroupis et lance des coups de poing brefs, violents, lui martelant les côtes et le ventre. 2, 4, 6 coups rapides. Je pivote, le sommet de mon crâne heurte son torse déchiré et huileux, le sang de mon cuir chevelu lacéré coule sur nous deux. Quelque chose dans sa poitrine ou son diaphragme claque avec un bruit métallique et Némès vomit du fluide jaune sur mon cou et mes épaules. Je recule en titubant et elle me sourit. Ses dents pointues luisent derrière les bulles de la bile jaune qui dégouttent de son menton sur les planches déjà glissantes de la plateforme. Elle crie, vapeur sifflante d'une chaudière mourante, et revient à l'assaut, son bras en forme de faux fendant l'air en un arc invisible. Je fais un bond en arrière, 3 mètres jusqu'à la paroi rocheuse où la corniche où se tient est née. Némès me lance un revers. Son avant-bras est une hélice, un pendule d'acier qui siffle. Elle peut me conduire où elle veut maintenant. Elle veut me tuer ou me pousser hors de son chemin. Elle veut aîner. Je saute de nouveau en arrière, la lame fend le tissu juste au-dessus de la ceinture cette fois. J'ai sauté à gauche,
plus vers la paroi que vers la corniche. Aîné est sans protection pendant une seconde. Je ne suis plus entre elle et la créature. La faiblesse de Némès. Je mise tout. Je mise Aîné, là-dessus. C'est un prédateur né. Si près de la mise à mort, elle ne peut s'empêcher de me porter le coup de grâce. Némès s'avance vers la droite, gardant la possibilité de sauter vers Aîné, mais me poursuivant tout de même vers la paroi de la montagne. La faux vise ma tête pour une décapitation nette. Je lui fais un croche-pied et roule vers la gauche, loin d'Aîné. Je suis tombé sur les planches, battant l'air de mes jambes. Némès m'enfourche, du fluide jaune éclabousse mon visage et ma poitrine. Elle lève le bras, hurle et la baisse.
« Vaisseau, atterrez sur cette plateforme, immédiatement, sans discuter !»
Je halète cet ordre dans l'émetteur des Philcom tandis que je roule contre les jambes de Némès. Son avant-bras tranchant s'enfonce dans le cèdre bonsaï à l'endroit où ma tête se trouvait une seconde auparavant. Je suis sous elle. La lame de son bras reste coincée dans le bois dense. Durant quelques secondes, penchée sur moi pour me griffer, elle n'a pas de prise pour libérer le bord coupant. Une ombre tombe sur nous deux. Les ongles de sa main gauche balafrent le côté gauche de ma tête, me tranchent presque l'oreille, s'enfoncent, glissent sur l'os de ma mâchoire et manquent de peu ma veine jugulaire. De la main droite, bloquée sous son menton, j'essaie d'empêcher ses dents de m'ouvrir la gorge ou de se refermer sur mon visage. Elle est plus forte que moi. Il faut que je me sorte de sous elle. Ma vie en dépend. Son avant-bras est toujours coincé dans le plancher de la plateforme, mais cela sert son but en la clouant sur moi. L'ombre s'épaissit. 10 secondes. Pas plus. Avec ses ongles, Némès se débarrasse de ma main, arrache la lame du bois, se remet sur ses pieds en vacillant. Ses yeux se tournent vers la gauche, où Aînée se tient, impuissante. Je roule loin de Némès, et loin d'Aînée, laissant mon ami sans défense. Je m'accroche au rocher froid pour me relever. Ma main droite est inutilisable, un tendon tranché à la dernière seconde. Aussi je lève la main gauche, tire la corde de sécurité de mon harnais. Je peux seulement espérer qu'elle est toujours intacte, et arrime le mousqueton au piton avec un claquement métallique, tel celui de menottes qui se ferment. Némès pivote vers sa gauche, m'ignorant maintenant, ses yeux de marbre noir fixés sur Aîné. Mon ami tient bon. Le vaisseau atterrit sur la plateforme, éteint ses répulseurs EM comme je le lui ai ordonné, laissant son poids reposer totalement sur le bois, écrasant le pavillon de la méditation avec un terrible bruit de bois qui se fend. Ses ailerons archaïques prennent presque toute la place, ne manquant que de peu Némès et moi. La créature jette par-dessus son épaule un coup d'œil à l'immense navire noir surgissant au-dessus d'elle, décide visiblement de ne pas en tenir compte et se ramasse pour bondir sur Aîné. Une seconde, je pense que le cèdre bonsaï tiendra, que la plateforme est encore plus forte que les calculs d'Aîné et mon expérience ne le suggéraient. Mais alors, retentit un horrible fracas de bois arraché et toute la plateforme de la méditation ainsi que la plus grande partie de l'escalier descendant au pavillon de l'attention juste se détache de la montagne. Je vois les gens qui regardent du balcon se rejeter à l'intérieur du vaisseau tandis que la structure tombe. Je souffle dans l'émetteur des comfils « Vaisseau, plane !» Puis je reporte mon attention sur Némès. La plateforme tombe sous ses pieds. Elle saute vers Aîné. Mon ami ne recule pas. Seulement la plateforme qui se dérobe sous elle empêche Némès de terminer son saut. Elle la rate de peu, mais ses griffes s'accrochent au rebord de pierre, en arrachent des étincelles, trouvent une prise. La plateforme se disloque et se désintègre en dégringolant dans l'abîme. Certains morceaux frappent celle plus importante qui est en dessous, en arrachent des parties, empilent des débris à d'autres endroits. Némès est suspendu au rocher. Lutte des pieds et des ongles à 1 mètre d'Aîné. Ma corde de sécurité mesure 8 mètres. En me servant de mon bras gauche en état de fonctionner, bien que mon sang rende la corde dangereusement glissante, je laisse filer plusieurs mètres et, la frappant d'un coup de pied, je m'éloigne de la paroi à laquelle je suis suspendu. Némès se hisse à un endroit où elle pourra passer ses doigts griffus par-dessus le bord de la corniche. Elle trouve une fissure et remonte en grimpeuse experte qui franchit un surplomb. Son corps est cambré comme un arc, tandis que ses pieds accrochés à la pierre la propulsent plus haut jusqu'à ce qu'elle puisse se lancer vers le rebord, vers Aîné qui n'a pas bougé. Je suis ramené en arrière loin de Némès, rebondis sur le rocher, je sens la pierre glissante contre mon pied nu et lacéré que Némès a dépouillé de ma botte, vois que la corde dont je dépends a été effilochée dans la lutte, ignore si elle tiendra encore plusieurs secondes. Je lui impose encore plus de tension en me balançant très loin de Némès en un arc de pendule. Némès se hisse sur les genoux, se remet sur ses pieds à 1 mètre de mon aimé. Je me balance plus fort. Le rocher racle mon épaule droite. Je pense pendant 1 seconde mortelle que je n'ai pas assez de vitesse et de corde. Puis je sens que j'en ai juste assez. Tout juste assez. Némès se retourne juste au moment où j'arrive derrière elle. Mes jambes s'écartent pour l'étreindre, puis se referment autour d'elle, chevilles croisées. Elle crie et lève son bras en forme de faux. Mon ventre et mon bas-ventre sont dépourvus de protection. Ignorant cela, ignorant la corde qui s'effiloche et la douleur, je m'accroche à elle tandis que la gravité et mon élan nous ramènent en arrière. Némès est plus lourde que moi et pendant une autre terrible seconde, je reste suspendu et elle ne bouge pas. Elle n'a pas encore retrouvé son équilibre, mais je me cambre. J'essaie de déplacer mon centre de gravité vers mes épaules en sang, et Némès décolle enfin de la corniche. J'ouvre aussitôt les jambes pour la relâcher. Elle lance son bras en forme de faux, manque mon ventre de quelques millimètres tandis que je suis emporté de nouveau vers la montagne, mais son mouvement la précipite en avant, loin de la corniche et de la paroi rocheuse, dans le trou laissé par la plateforme. Je racle la roche en essayant d'arrêter mon élan. La corde de sécurité se casse. Je m'écrase, écartelé, sur la paroi rocheuse et commence à glisser. Ma main droite est hors d'usage, mes doigts gauches trouvent une prise étroite, la perdent, je glisse plus vite. Mon pied gauche trouve un rebord 1 centimètre de large. Cela plus la friction me plaque assez longtemps contre le rocher pour que je puisse regarder par-dessus mon épaule gauche. Némès tombe en se tordant. Elle essaie de changer sa trajectoire suffisamment pour enfoncer ses griffes ou sa faux dans les bords restants de la plateforme la plus basse. Elle les rate de 4 ou 5 centimètres. 100 mètres plus loin, elle frappe une saillie rocheuse qui la propulse encore plus bas, vers les nuées. Les marches, les montants, les poutres et les piliers de la plateforme tombent dans un nuage, 1 kilomètre en dessous d'elle. Némès crie. Un cri haché d'orgue de barbarie, de rage et de frustration, et l'écho se répercute de rocher en rocher autour de moi. Je ne peux pas tenir plus longtemps. J'ai perdu beaucoup trop de sang. Trop de muscles ont été déchirés. Je sens la roche glisser sous ma poitrine, ma joue, ma paume et mon pied gauche. Je tourne les yeux vers la gauche pour dire adieu à Aîné, ne serait-ce que dans un regard. Son bras me rattrape au moment où je commence à tomber dans le vide. Elle a grimpé à main nue au-dessus de moi, le long de la paroi à pic, pendant que je regardais Némès tomber. Mon cœur tape de l'horrible peur que mon poids ne nous entraîne tous deux. Je me sens glisser. Je sens les mains fortes d'Aîné glisser. Je suis couvert de sang. Elle ne me lâche pas. « Roll !» dit-elle d'une voix qui tremble, mais d'émotion, non de fatigue ou de terreur. Son pied gauche, toujours sur la corniche, est la seule chose qui nous retient contre la paroi. Elle libère sa main gauche, la lève et arrime sa corde de sécurité à mon mousqueton qui pendille, toujours attaché au piton. Nous glissons tous deux, nous écorchons la peau. Aussitôt, Aîné me serre dans ses bras, referme ses jambes autour de moi. C'est une répétition de ce que je viens de faire avec Némès, mais cette étreinte-là est pleine d'amour et de la passion de survivre. Non de haine et du désir de détruire. Nous chutons sur les 8 mètres de sa corde de sécurité. Je me dis que mon poids va arracher le piton ou casser la ligne. Nous rebondissons 3 fois et restons suspendus au-dessus du vide. Le piton tient. La corde de sécurité tient. Aîné ne me lâche pas.
« Roll !» répète-t-elle. « Mon Dieu ! Oh mon Dieu !»
Je pense qu'elle me tapote la tête. Mais je m'aperçois qu'elle essaie de remettre en place mon cuir chevelu arraché, qu'elle essaie d'empêcher mon oreille de tomber.
« Ça va !»
J'essaie de la rassurer.
mais mes lèvres saignent et sont enflées. Je ne peux pas sortir les mots qu'il faudrait que je dise au vaisseau. Aînée comprend. Elle se penche et balbutie dans l'émetteur du filcom de mon capuchon.
« Vaisseau, viens nous chercher, vite !»
L'ombre descend, se rapproche comme si elle allait nous écraser. La foule est de nouveau sur le balcon, les yeux écarquillés, tandis que le vaisseau géant flotte à 3 mètres. Il y a maintenant des parois grises de chaque côté de nous, et morphe une rampe depuis le balcon. Des mains amies nous tirent en sécurité. Aîné ne relâche pas l'étreinte de ses bras et de ses jambes avant que l'on nous emporte du balcon, dans l'intérieur recouvert de moquettes, loin de l'abîme. J'entends vaguement la voix du vaisseau. Des destroyers foncent sur nous. Un autre est juste au-dessus de l'atmosphère, à 10 000 kilomètres à l'ouest, et se rapproche.
« Tire-nous d'ici !»
ordonne Aîné.
« Monte et sors de l'atmosphère ! Je te donne les coordonnées dans 1 minute ! Va !»
J'ai un vertige et ferme les yeux lorsque les moteurs à fusion rugissent. J'ai la faible impression qu'Aîné m'embrasse, me serre dans ses bras, baise mes paupières, mon front ensanglanté et mes joues. Mon ami pleure.
Rachel, peux-tu établir un diagnostic de son état ?
La voix d'Aîné me parvient de très loin. Des doigts autres que ceux de mon aimé me touchent brièvement. J'ai des élancements douloureux, mais incroyablement lointains. Un froid descend sur moi. J'essaie d'ouvrir les yeux, mais découvre qu'ils sont tous deux scellés par le sang, ou l'enflure, ou les deux.
Ce qui paraît le pire est le moins effrayant.
J'entends Rachel dire cela de sa voix douce, mais très ferme.
La blessure au cuir chevelu, l'oreille, la jambe cassée, etc. Mais je pense qu'il y a des lésions internes. Pas seulement les côtes. Une hémorragie interne. Et les blessures faites par les griffes dans le dos s'enfoncent jusqu'à la colonne vertébrale.
Aîné pleure toujours, mais son ton reste celui d'un chef.
L'homo, abétique, aidez-moi à l'emporter jusqu'à l'autochirurgien.
Je regrette, dit la voix du vaisseau, juste à la limite de ma conscience. Mais les 3 réceptacles de l'autochirurgien sont occupés. Le sergent Grégorius s'est évanoui à cause de ses lésions internes et a été placé dans la 3e niche. Les 3 patients sont actuellement sous assistance respiratoire.
Merde,
fait Aîné à voix basse.
Oh, mon chéri, peux-tu m'entendre ?
J'essaie de répondre, de dire « Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. » Mais tout ce que j'entends, c'est un gémissement incompréhensible qui sort de mes lèvres enflées et de ma mâchoire disloquée.
« Roll,
poursuit Aîné,
« il faut que nous échappions à ces vaisseaux de la Pax. Nous allons te mettre dans l'un des caissons de fût cryotechnique, mon chéri. Nous te laisserons dormir jusqu'à ce qu'il y ait un compartiment de libre dans l'autochirurgien. Tu m'entends, Roll ?»
Je décide de ne plus essayer de parler et réussis à hocher la tête. Je sens quelque chose qui pend sur mon front, comme une casquette mouillée posée de travers. Mon cuir chevelu. Aîné se penche et chuchote dans l'oreille qui me reste.
« Je t'aime, mon chéri. Tu vas t'en tirer. Ça, je le sais. »
Des mains me soulèvent, m'emportent, me couchent sur quelque chose de dur et de froid. La douleur fait rage, mais c'est une chose lointaine qui ne me concerne pas. Avant qu'on referme le couvercle du caisson de fugue cryotechnique, j'entends distinctement la voix du vaisseau dire calmement «
4 navires de guerre de la Pax nous parlent. Ils disent que si nous ne coupons pas nos moteurs dans 10 minutes, ils nous détruiront. Puis-je faire remarquer que nous sommes à 11 heures au moins d'un point de translation et les 4 vaisseaux sont à portée de tir ?»
Je perçois la voix lasse d'Aîné.
Continue vers les coordonnées que je t'ai données. Ne réponds pas au vaisseau de guerre de la Pax.
J'essaie de sourire. Nous avons déjà fait cela. Essayez d'échapper au vaisseau de la Pax. Mais il y a une chose que j'ai apprise et que j'aimerais bien expliquer à Aîné, si ma bouche voulait bien fonctionner et si mon esprit s'éclaircissait un peu. C'est seulement qu'on a beau essayer, ils finissent toujours par vous rattraper. Je réfléchis à cette petite révélation, un satori en souffrance. Mais maintenant, le froid m'envahit, me pénètre, glace mon cœur, mon esprit, mes os et mon ventre. Je peux seulement espérer que le cycle des bobines de la fugue cryotechnique sera plus court que lors de mon dernier voyage. Si ce doit être la mort, eh bien... ce sera la mort. Mais je veux revoir Aîné. C'est ma dernière pensée.